C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Sauce Killer. J'ai eu le plaisir de recevoir cette semaine sur mon podcast Ethan Bensoussan. Alors, Ethan, qui est-il ? Ethan est un consultant en neuromarketing, ou plutôt, devrais-je dire, en psychomarketing. Alors, la différence entre neuromarketing et psychomarketing, quelle est-elle ? C'est une excellente question à laquelle Ethan répond dans ce podcast. Et justement, la réponse à cette question constitue l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé d'inviter Ethan. En fait, en le recevant sur mon podcast, j'avais une idée précise en tête. Je voulais chercher à comprendre ce qui distinguait le neuromarketing et le psychomarketing du marketing que je vais qualifier de traditionnel. Car en fait, sauf erreur de ma part, le but même du marketing, l'essence même du marketing, c'est justement de comprendre les mécanismes de notre cerveau pour pousser à l'achat. Et là, je pense notamment aux mécanismes de la peur ou encore aux mécanismes de l'appartenance sociale qui sont les mécanismes à peu de choses près les plus puissants sur lesquels les marketeurs jouent aujourd'hui. Du coup, regarde ça, pour moi, la nuance, la différence entre ces trois domaines-là était plutôt floue, était compliquée à cerner. Et donc, j'ai posé la question à Ethan. Et la réponse qu'il m'a apportée était réellement passionnante. Selon lui, ce qui distingue le marketing du neuromarketing et du psychomarketing, c'est le fait que le marketing se contente en quelque sorte de suivre des structures précises et détaillées. Des structures, on va dire, qui ont fait leurs preuves durant des années et des années sans jamais chercher à les remettre en question. Contrairement au neuromarketing et au psychomarketing, où là, l'idée, avant toute chose, c'est de faire des tests. C'est de tester toutes les structures et de vérifier si elles marchent ou non, de les comparer entre elles, de mettre des éléments variables pour vérifier, encore une fois, celles qui dominent les autres. Et encore une fois, aucune structure ne va dominer les autres sur le long terme. Donc, constamment, en neuromarketing et en psychomarketing, on fait des tests pour justement voir quelle stratégie, à un instant T, est la meilleure. Et ça, ce travail-là, rapproche le travail réalisé par Ethan du travail que je fais moi au quotidien. Et surtout, du travail que je vous propose chaque semaine, que ce soit au travers de mes podcasts ou encore au travers de mes formations. Ethan, en fait, tout comme moi, cherchons tout simplement à comprendre le pourquoi des choses, avant de chercher à expliquer le comment des choses. À comprendre, là je vais citer mon cas personnel, le pourquoi par exemple notre cerveau n'est pas fait pour être productif. Le pourquoi l'alimentation joue sur nos performances mentales. Le pourquoi il est inutile pour 99% des personnes de boire un café le matin au réveil et j'en passe. En fait, comprendre tous ces pourquoi permet réellement d'agir en connaissance de cause. Cela permet réellement, surtout, c'est encore plus important, de parvenir à adapter son comment. Son comment faire pour s'améliorer. Son comment faire pour être plus performant. Son comment faire pour être plus efficace. Et ça, encore une fois, ça s'oppose aux stratégies, on va dire, clés en main, aux stratégies de facilité, comme j'aime à les appeler, où là, vu qu'on a une stratégie qui est directement établie, directement cadré, on ne peut pas sortir de cette stratégie. Et si elle ne fonctionne pas avec nous, on ne pourra jamais comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas. Et donc, on ne pourra jamais comprendre comment l'améliorer. Alors ça, comme je vous l'ai dit, ça ne constitue qu'une partie de mon échange avec Ethan. Nous avons parlé de nombreuses autres choses. Et là, je pense notamment au jeûne intermittent et à ses effets sur le cerveau. Nous avons également parlé de l'importance de ne jamais se limiter à son domaine de compétences pour surperformer au travail, mais au contraire de chercher à s'enrichir de domaines autres pour se distinguer des autres. Et là, Ethan cite notamment son utilisation personnelle des stratégies issues de la communication non violente pour performer en marketing. Et enfin, nous avons aussi parlé, entre autres évidemment, hein, il y a plein de choses que nous avons abordées, donc nous avons également parlé de l'importance de respecter ses rythmes biologiques pour être plus performant. Alors, Tout au long de ce podcast, Ethan évoque des termes spécifiques, des termes liés au marketing. Et là, je pense notamment aux termes page de capture ou encore tunnel de vente. Ces notions sont réellement propres au marketing digital pour être très précis. Une page de capture, c'est quoi ? C'est une page internet qui est destinée tout simplement à capturer les emails d'une personne. Et si aujourd'hui vous faites partie des personnes qui recevaient chaque jour mes emails privés, c'est que vous avez déjà rencontré une page de capture, à savoir en l'occurrence la mienne. Et un tunnel de vente, pour terminer avec ces termes spécifiques, là, cette fois-ci également, c'est quoi ? C'est une séquence d'emails automatisés qui ont pour objectif de transformer un prospect en client. Un client qui va acheter soit des produits, soit des services. Et enfin, dernier élément à vous partager avant de vous laisser découvrir mon interview avec Ethan. Ethan a été formé par Bertrand Millet. Bertrand Millet de l'agence Marketing Mentalist. Le travail réalisé par Bertrand vaut véritablement le détour. Si le marketing, la psychologie humaine et surtout avant toute chose l'authenticité vous plaisent, alors je vous invite réellement à découvrir le travail de Bertrand Millet au travers de sa chaîne YouTube appelée Marketing Mentalist. Je vous mets un lien juste en bas en description. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser profiter de mon échange avec Ethan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Ethan.
Salut Jérémy.
Comment vas-tu ?
Ça va, et toi ?
Ça va nickel. Alors, je tiens déjà pour commencer à te remercier d'avoir accepté l'invitation.
Merci aussi à toi de m'avoir invité, surtout.
Pour commencer, Ethan, je vais faire une petite contextualisation. Alors, comment je t'ai connu ? Je t'ai connu car, de par mon activité, je m'intéresse bien évidemment aux neurosciences, qui sont au cœur même de mon travail. Et également, Je m'intéresse au marketing, ainsi qu'aux stratégies marketing. Alors, pourquoi le marketing ? Grande question. Car sans marketing, aujourd'hui, on en a parlé un peu ensemble en amont du podcast, il est très compliqué de se faire connaître. Et surtout, le domaine du marketing est réellement, on va dire, à la pointe des recherches sur le fonctionnement du cerveau humain, à la pointe des recherches sur les mécanismes cognitifs et à la pointe des recherches sur tous les biais cognitifs justement qui orientent nos décisions. Ouais. Et à force de m'intéresser à ces domaines-là, je suis tombé quasiment inévitablement, j'ai envie de dire, sur le travail de Bertrand Millet. Donc Bertrand Millet que tu connais très bien car tu travailles pour lui et qui tient l'agence Marketing Mentalist. Et tu es donc consultant, toi, dans cette agence en tant que neuroconsultant, c'est bien ça?
C'est ça, c'est ça. Alors moi, je travaille aussi dans l'agence WM Agency avec Bertrand. Et ça, c'est une partie de mon travail en tant que consultant en neuromarketing. C'est tout juste.
Et donc, tu fais d'autres activités en parallèle également, c'est ça ?
Alors ouais, j'accompagne aussi des clients à côté. Et puis, on a plusieurs projets avec Bertrand sur lesquels on travaille en parallèle, à côté d'accompagner des clients sur leur stratégie marketing. On a plein de choses qui devraient sortir très rapidement.
Ça marche. Alors du coup, la première question que j'ai à te poser, Ethan, c'est qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le marketing qui, par essence, utilise les mécanismes du cerveau pour vendre, du neuromarketing ? C'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, si on réfléchit bien, en réalité, il n'y aurait pas forcément de différence, puisque la seule différence, c'est que d'un côté, avec le marketing classique, on utilise de manière inconsciente ces méthodes-là sans le savoir. Et quand on travaille sur le neuromarketing, et nous, c'est plus l'aspect d'ailleurs psychologique, ben en fait, on essaye de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et du coup, une fois qu'on comprend ces mécanismes-là, ben on peut travailler, les approfondir. Donc, nous, en fait, on essaie de prendre conscience de ce qui se passe derrière pour pouvoir l'utiliser et puis le développer encore plus, de manière plus importante.
Donc l'idée, ce n'est pas tester des stratégies un peu au doigt mouillé, façon de parler, mais c'est réellement comprendre une stratégie pour l'appliquer, mesurer peut-être les résultats et après adapter et voir si ça fonctionne ou non. C'est ça, c'est plus scientifique comme démarche en fait.
Alors ça, c'est dans la théorie, c'est de toute façon, pour pouvoir optimiser n'importe quel système, c'est la démarche à suivre. Après, évidemment, il y a l'intuition qui rentre en jeu. Et puis, c'est ce qui fait aussi tout le charme du marketing, c'est qu'on traite avec des personnes. Et la seule vraie conclusion, c'est soit des personnes achètent, soit elles n'achètent pas. Donc, on peut pas prévoir à l'avance le comportement des personnes. Donc, évidemment, il y a de l'intuition avec les modèles que nous, on peut imaginer à l'avance. Et ensuite, on les teste. Et comme tu dis, ensuite, on analyse, on optimise. Et c'est tout ça notre travail.
La part d'intuition est importante ou pas en termes de pourcentage ?
Moi, je dirais que ça dépend des consultants. Ça dépend de la manière de travailler. Moi, j'accorde une grande importance à l'intuition, à la créativité et puis au feeling. Et pour d'autres personnes, il faut avoir des stratégies bien carrées et les suivre à la lettre. Mais encore une fois, ça dépend des consultants. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. C'est vraiment juste une façon de travailler. Et puis, comme toi, tu t'en parles beaucoup, il y a peut-être des mécanismes qui fonctionnent mieux avec certains cerveaux que d'autres. Et je pense que c'est quelque chose d'assez personnel à chaque fois.
Donc, il n'y a pas, on va dire, de recette miracle à appliquer à tout le monde. C'est vraiment propre à un individu, propre à une
Jamais.
personne. Ok.
Jamais, pas de recette miracle, surtout pas.
Surtout pas. D'accord. Et comment justement, toi, tu te formes par rapport à tout ça? Comment tu trouves des nouvelles idées, des nouveaux contenus, des nouvelles stratégies? Tu lis des livres, tu suis des formations, tu écoutes des podcasts, tu vas à 100%, on va dire, à l'intuition et tu vois si ça marche ou pas et tu réitères par la suite?
Eh ben, bah, premièrement, quand moi je suis rentré dans marketing mentaliste, avec Bertrand Mie, je me suis beaucoup formé bah, sur tout ce qui est psychologie, donc CNV, hypnose, etc. Donc ça, c'est une grande partie de ma formation. Et puis, en dehors de ça, bah, je baigne un peu aussi dans ce milieu-là, puisque ma mère est psychologue. Donc moi, c'est un domaine qui me passionnait déjà à la base. Et donc, ouais, j'ai ces livres à la maison, je les feuillette et c'est quelque chose qui se fait un peu sur le tas quand même.
Est-ce que tu as des livres justement à nous conseiller en particulier pour commencer un peu à comprendre la psychologie humaine? Ceux qui t'ont un peu
Alors,
marqué?
ouais, il y a un livre, nous, enfin, moi, que j'ai lu quand je me suis intéressé à la CNV. C'est, alors, il me semble que le nom du livre, c'est Et si les murs n'avaient. Alors, attends, je vais te retrouver plutôt le nom pour ne pas
Vas-y.
te dire de bêtises. C'est de Marshall Rosenberg.
Oui, c'est pas les mots sont des fenêtres
Les
ouvertes ou un truc comme ça.
fenêtres, c'est exactement ça. Alors attends, je vais trouver le nom exact et pour pas dire de bêtises,
C'est les mots
mais c'est
sont des
celui-là.
fenêtres, je ne sais plus trop quoi. Oui, je vois lequel dont tu parles.
Ah voilà, c'est ça. Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs.
Voilà. Donc, c'est un
C'est
livre que tu
celui-là.
conseilles, je ne l'ai pas encore lu. Moi, je l'ai commandé récemment, je ne l'ai pas encore lu.
Ouais, je le conseille parce que ça permet. Bah, alors en tant que marketeur, c'est intéressant pour comprendre comment les personnes fonctionnent. Mais c'est surtout aussi intéressant même dans les relations personnelles qu'on a. Bah, peut-être on en parlera un peu après, mais même avec les clients, parce que le marketing, c'est aussi travailler avec des personnes. À partir du moment où on est à l'aise avec les relations, et ben on peut mieux accompagner les personnes sur leurs projets.
Mais ça, ce qui me surprend, c'est que le livre dont tu parles, c'est un livre de communication non violente à la base. Donc, il est fait un peu pour désamorcer les conflits, pour mieux communiquer avec les autres. Et toi, tu l'as extrapolé au marketing.
Ouais, alors ça, c'est surtout les théories qu'on apprend avec Bertrand. Mais ouais, c'est le but. Trouver des méthodes, des théories qui sont applicables dans la relation humaine et puis comprendre comment on peut les appliquer au marketing. C'est comme en science, c'est on fait créer des modèles pour expliquer des vérités sur le monde. Et puis, si elles fonctionnent, et ben dans ce cas-là, on prend ça comme vérité et puis on l'utilise à plus grande échelle. Mais c'est un modèle parmi tant d'autres qu'on peut utiliser en marketing, ouais.
D'accord, donc l'idée pour être bon en marketing, en tout cas une des idées potentiellement, c'est de voir un peu ailleurs justement, c'est pas se cantonner au marketing, mais regarder un peu les domaines transversaux pour prendre des bonnes idées, des pistes, les appliquer et puis tester.
Moi, je pense que c'est la manière la plus efficace et surtout la plus amusante quand on fait du marketing. Le but, c'est de trouver à chaque fois des nouveaux moyens pour atteindre des personnes, pour les faire acheter un produit qui leur sont utiles. Alors du coup, si on comprend tous les mécanismes de relationnel, eh ben ça peut aider à expliquer certains chiffres ou pourquoi un tunnel ou pourquoi ceci marche ou ne marche pas.
D'accord. Et l'autre question également qui m'est venue à l'esprit, tu as parlé un peu d'hypnose lors de ta formation auprès de Bertrand Millet. Est-ce que l'hypnose est une compétence que l'on doit développer en tant que marketeur selon toi aujourd'hui pour aller plus loin?
Alors que l'on doit développer, il n'y a pas de devoir. Et puis comme on le disait un peu avant, c'est surtout, il y a certains mécanismes qu'on utilise de manière inconsciente, mais à partir du moment où on prend conscience qu'on utilise ces mécanismes-là, ben, on peut les pousser un peu plus et du coup les rendre plus efficients. En quoi l'hypnose bah, peut être intéressante? Déjà, oui, pour créer des pages de capture ou même des pages de vente plus performantes. On a fait des tests avec Bertrand. D'ailleurs, c'est l'objet de notre chaîne YouTube. Et puis, Ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément, mais est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est sûr.
C'est le petit plus qui peut permettre un peu de se distinguer des autres ou d'aller plus loin, tout simplement.
Exactement, exactement.
Et pour reprendre un peu la chaîne YouTube que tu as évoquée à l'instant, donc vous avez fait un test avec Bertrand, qui est
Ouais.
de comparer le marketing, on va dire, traditionnel au marketing hypnotique, et justement comparer sur le même business les deux stratégies pour voir laquelle fonctionnait le mieux. C'est bien ça.
C'est exactement ça.
Et résultat?
Alors, je sais pas si tu as suivi un petit peu
J'ai suivi
la
complètement, mais
chaîne.
ça s'arrêtait
Ouais.
en plein milieu.
Exactement. Bah, c'était la période avec le confinement. On n'a
Bien
pas pu
sûr.
finir le challenge. Et du coup, ça sera partie remise. Mais il y
Donc
avait
vous allez
des
recommencer le
chiffres.
challenge alors? Vous allez reprendre tout depuis le début?
Ouais, bah on va essayer de filmer, de le refaire aussi sur YouTube. Mais de toute façon, ce sont des tests qu'on mène nous dans l'agence au quotidien. Donc on voit ce qui fonctionne ou pas. Puis en général, les pages qui sont construites avec, en prenant conscience des mécanismes de l'hypnose, etc., elles sont plus performantes parce qu'en fait, on rend les choses les plus cohérentes possibles. On essaye que ce soit le plus cohérent possible de tous les points de vue. Donc en général, ça fonctionne plutôt bien, oui.
Parce que même, du coup, si j'ai bien compris, même si vous avez connaissance que l'hypnose fonctionne mieux qu'un marketing, on va dire normal, vous testez les deux versions à chaque fois.
Ouais, c'est de toute façon être marketeur, c'est juste faire des tests et puis ensuite optimiser comme tu l'as dit. Donc s'il y a un seul mot pour faire du marketing, c'est tester, tester, retester encore parce qu'il n'y a pas de vérité absolue.
Beaucoup de remises en question sur les pratiques, sur les choses qui marchent et qui ne marchent pas, du coup.
Ah,
Ok.
c'est que ça au quotidien, ouais.
Ce qui doit être passionnant, du coup, toujours déconstruire pour reconstruire, pour réapprendre. Ça
Ouais,
va être.
c'est la partie, je dirais, la plus challengeante, puisque on peut forcément se mettre à croire des choses, ça c'est la bonne technique, ça va fonctionner, mais quand on voit que ça fonctionne pas, bah tout ce qu'on avait construit mentalement, et ben faut le déconstruire comme tu dis et refaire par derrière. Donc c'est ce qui est le plus challengeant.
Et tu as mis longtemps, toi, à avoir à développer ces compétences-là?
Alors en termes de temps, je pense que c'est des choses qui se font à partir du moment où on est bien formé et qu'on les met en application directement, ça s'apprend rapidement. Mais le plus important, c'est d'essayer justement et de les mettre en pratique pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas.
Toi, de mémoire, tu as un diplôme, en tout cas, tu as un background d'ingénieur, c'est bien ça, si mes souvenirs sont bons, ou
Ouais,
peut-être que je
c'est
me trompe,
ça.
c'est ça. Du coup, est-ce que tu sais si dans les écoles de commerce, écoles, pardon, de marketing traditionnel, on enseigne cette éthique-là d'hypnose, de CNV ou pas du tout?
Alors moi, de ce que, alors j'étais comme tu dis en ingénieur, mais en marketing, j'ai des amis qui sont en école de marketing, etc. C'est pas du tout les mêmes approches que nous on peut utiliser dans notre agence avec nos clients. Je pense que ce qu'on apprend en école de marketing sont des théories, des grandes théories avec tu sais les grands noms comme AIDA, toutes
Oui, le
ces
copywriting,
templates, exactement
d'accord.
tous ces templates et ces schémas de pensée. Alors je dis pas que ça fonctionne pas. Mais ce serait intéressant de savoir pourquoi ça fonctionne et dans quel cas ça fonctionne pas. Ça, c'est du vrai travail pour le coup. C'est
Ça
ce qu'on fait.
rejoint un peu mon approche, effectivement, au niveau du cerveau. C'est pas comprendre, on va dire, les solutions, mais effectivement les mécanismes qu'il y a derrière aussi.
C'est
Comment,
ça.
pourquoi son cerveau a tel blocage pour passer outre et pas uniquement voir la solution clé en main, qui est une solution qui peut s'appliquer parfois, oui, mais des fois, non. Par contre, quand on
Ouais.
comprend réellement la base d'un problème, on peut adapter sa stratégie pour résoudre le problème en question.
Ouais, c'est exactement ça. Faut quelque chose d'assez modulable. C'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de formule magique qui fonctionne. Donc c'est exactement ça.
Mais ça demande plus de travail, par contre, parce qu'on n'a pas d'éléments
Alors
clés en main à appliquer, de recettes secrètes.
plus de travail, je sais pas. Est-ce que je pense pas que ce soit plus de travail parce que dans un cas, soit on applique une méthode qu'on a apprise, soit dans l'autre cas, on crée des méthodes sur mesure. Mais est-ce que ça demande plus ou moins de travail? Ça, je pourrais pas te dire.
Plus travail, je couche, j'aurais dit en amont surtout en fait.
Ouais, c'est plutôt surtout deux manières de travailler différentes.
Oui, c'est vrai.
C'est
C'est
plutôt
vrai.
ça.
Du coup, on parle de marketing depuis tout à l'heure, de neuromarketing même. Et la question que je me posais aussi et que je voulais te poser, si les techniques que tu emploies toi sont prouvées par la science au niveau du cerveau, les effets de l'hypnose, de la CNV ou autre. Ou est-ce que c'est réellement encore une fois une notion de stratégie un peu au doigt mouillé, mais pas de façon péjorative, mais plus à l'intuition?
Ouais. Alors, toi, quand tu parles de science, il faudrait, je pense, faire la différence entre le neuromarketing et un peu ce qu'on utilise, nous, plus s'appellerait le psychomarketing. Tout ce qui est neurologie, ça, ce sont des faits. Les neurosciences cognitives sont des choses qui sont prouvées, mesurées. C'est quand on mesure l'activité du cerveau pour des tâches bien précises. Alors là, dans ce cas-là, on est vraiment dans la neuroscience. Et dans ce cas-là, ce sont des études scientifiques qui le montrent. Par contre, quand on fait de la psychologie, comme les psychanalyses, c'est pas quelque chose de scientifique. Donc dire que c'est prouvé, ça serait un peu mentir. Par contre, dire que expérimentalement, on voit que ça fonctionne, ça c'est plus juste. Et par exemple, en CNV, les moyens de résoudre des conflits ou d'inhiber la violence dans un discours, bah ça, ce sont des méthodes qui ont été prouvées et qui ont fonctionné, qui ont permis de résoudre des réels conflits. Donc, c'est plus sur ce côté-là. Entre prouver et prouver par l'expérience, c'est un peu différent.
Donc ça marche sur le terrain, tout simplement. Peut-être que la science l'a pas encore démontré,
Ouais,
mais par contre, sur le
alors
terrain, ça fonctionne.
je pense qu'il y a certaines choses quand même qui commencent à être démontrées, comme l'activité d'un cerveau en état d'hypnose. Tu vois, ça, c'est des choses qui commencent à être démontrées, mesurées. Mais c'est quand même une démarche scientifique qu'il y a derrière, mais quand on l'applique au marketing, ça devient un peu expérimental.
Et c'est pas dit que ça ne sera pas démontré d'ici quelques années,
Oui, ça
également.
c'est fort probable. C'est
Il y a
fort
ça aussi
probable.
à prendre en compte, comme les intelligences multiples qui ont été, on va dire, émises, dont l'hypothèse a été émise 30 ans avant leur réelle mise en
Ah
évidence
ouais?
par les neurosciences. Ouais, 30 ans, ouais.
Ah ouais,
Et Howard Gardner
ok.
a trouvé ça 30 ans avant, c'était montré en 2015, du coup, par les neurosciences, et lui a commencé à en parler en 70. C'est ça.
Ok, donc lui, il était en précurseur 30 ans avant, c'est
Alors,
beaucoup.
si tu veux, le mec avait découvert 7 intelligences multiples avant que la science le prouve. Et les 7 ont été retrouvées, plus une 8e qu'il a émise. Par contre, les neurosciences n'ont pas trouvé encore cette 8e-là précisément. Mais 7
Dans ce
sur
cas-là,
8, c'est déjà pas mal quand même.
ça remet carrément en question les tests de QI.
C'est ça, plus tout le système éducatif aussi, qui est
En
surtout basé
plus.
sur l'intelligence logico-mathématique, donc les maths, les sciences ou autres. Donc tout ça s'est remis en question. Bah, c'est remis en
Ok.
question, oui et non, parce que effectivement, les neurosciences l'ont prouvé, mais est-ce que le système éducatif va évoluer dans ce sens-là, c'est pas dit. Il y a
Ok,
ça aussi derrière, toi. T'as
je
des
vois.
initiatives comme l'école Montessori qui vont dans ce sens-là, mais ça reste assez minime par rapport à tout le système qu'ils remettent en place.
Ah là, pour le coup, il faut déconstruire pas
Toute la
une seule
société.
stratégie, c'est une société entière qu'il faut déconstruire.
C'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Donc
Ouais,
c'est pour
je
ça, au final,
comprends.
si on résume, c'est pas dit que les techniques que tu emploies toi aujourd'hui sans réelle preuve scientifique ne soient pas prouvées d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans.
Ouais,
Auquel cas,
c'est.
tu seras un précurseur. Et je ferai un
Alors,
podcast un jour
précurseur,
sur les techniques d'Ethan.
j'espère que ce sera prouvé dans 30 ans, comme ça sera encore plus impressionnant.
c'est ça, je te le souhaite en tout cas. Super. Justement, on parlait un peu de transversalité ensemble. Donc, on évoquait un peu la CNV que tu appliquais à toi en marketing. Est-ce que l'inverse également est vrai? Est-ce que tu as appris des stratégies marketing qui, toi, aujourd'hui, te permettent de mieux communiquer, de mieux réfléchir, de mieux gérer ton temps ou autre?
Alors, pour répondre à ça, je dirais plus que bah, ça serait le premier sens que tu as évoqué, ça m'a permis de l'utiliser dans les relations. Par exemple, quand on est consultant marketing, ce qui est important, encore plus que vendre le produit, c'est de communiquer avec son client. Et donc, en dehors du fait d'utiliser ces moyens dans notre marketing à proprement parler, le marketing, ça va aussi jusqu'à comprendre le réel besoin d'un client. Parce qu'une personne qui a un besoin de sérénité, on lui design pas une même stratégie qu'une personne qui est un peu plus ou qui est moins sur la réserve et qui est prêt à mettre des gros budgets, etc. Donc ça va aussi dans ce sens-là. C'est à la fois sur le terrain où on doit trouver ce qui fonctionne pour vendre, mais aussi comment gérer une personne et comprendre ce qu'elle, elle a vraiment besoin sans qu'elle s'en rende compte forcément. Donc dans ce
D'accord.
sens-là,
Tu
c'est utile.
veux dire que tu comprends les réels besoins de la personne, non pas les besoins qui sont affichés, mais les besoins un peu sous-jacents.
C'est ça, bah, c'est que de la communication. Et puis une personne, elle peut être contente ou pas d'une prestation marketing, pas forcément que dans les résultats, mais dans la manière dont c'est développé. Si on lui fait une stratégie qui fonctionne très bien, mais qui lui demande 8 heures ou 10 heures de travail par jour, ça correspond pas forcément à ses besoins.
Et comment tu fais toi aujourd'hui, vu que tu as des clients un peu multiples, avec des problématiques multiples, des domaines multiples, des compétences multiples, comment tu fais pour t'y adapter à ces personnes-là? Tout passe par la communication, par l'écoute, par le relationnel?
Ouais, ça c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup au sein de marketing mentaliste, c'est savoir écouter les personnes avec qui on parle et justement savoir retranscrire certains mots, certaines façons de parler dans nous notre rendu qu'on doit lui faire.
D'accord. C'est pas compliqué comme mise en application, comprendre réellement les problèmes d'une personne au cours d'un échange qui dure quoi, 1 heure, 2 heures maximum?
Franchement, dans un accompagnement marketing, ce qui est le plus compliqué, c'est la relation avec le client plus que le marketing en lui-même et une stratégie de Facebook Ads ou YouTube Ads. C'est vraiment la relation avec le client et c'est le plus important.
T'as déjà eu des échecs par rapport à ça, où tu étais sûr d'avoir compris le problème de la personne, mais malheureusement, tu es passé à côté? Pas ce problème, c'est un échec réellement, mais une
Bien
désillusion
sûr.
ou une erreur, je sais pas.
Ouais, bien sûr, il y a des clients avec qui ça fonctionne mieux que d'autres. Et quand on n'est pas sur forcément les mêmes longueurs d'onde ou qu'on essaie d'expliquer que une stratégie marketing, c'est pas magique, il faut faire des tests justement. Des personnes, ça leur convient pas. Du coup, dans ce cas-là, la rupture, elle est faite dans cette relation client et prestataire. Et dans ce cas-là, c'est difficile d'avancer parfois.
Donc, on revient dans cette notion que les gens aiment bien avoir des solutions un peu clés en main plutôt que devoir tout tester malheureusement.
Il y en a, ouais, la majorité des personnes, ce qu'elles aiment, c'est le clé en main.
Ouais.
Dis-moi sur quel bouton appuyer, et puis est-ce que ça va me faire rentrer
Comme
des
argent
résultats ou pas?
directement sur ma carte bleue. D'accord.
C'est ça.
Ok. Et justement, faire comprendre à ces personnes-là comme quoi le test est important, comme quoi l'échec aussi est important, je pense. Comment tu fais pour leur faire intellectualiser ça? T'as des stratégies, t'as un accompagnement, t'as des mots particuliers. Comment tu fais?
Ça va dépendre beaucoup des personnes. Il y en a qui l'intègrent très facilement et qui sont là et qui font confiance. Ils disent pas de souci, c'est normal, je comprends. Et quand c'est un peu moins clair, il faut l'expliquer. Alors comment? En expliquant justement tout le processus. Quand on essaye d'expliquer comment fonctionnent les choses et qu'on construit avec elles tout le processus de manière cohérente, il n'y a pas de raison qu'une personne ne comprenne pas qu'il faille tester, qu'on a besoin de temps, de data pour pouvoir atteindre ses objectifs.
Donc avant, sur du test and learn, quoi. On teste, on voit si ça marche, on réitère ou on annule. Ok.
Ouais, puis
Ça
quand on
marche.
explique bien en détail le pourquoi du comment on fait ça fonctionne bien.
Ça marche. Autre question que j'ai à te poser également, Ethan. J'ai été faire un tour sur le site de la WM Agency, donc pour laquelle tu travailles également, comme tu nous l'as dit. Et tu es présenté comme étant une personne qui est un pur concentré de créativité qui fait le bonheur de ses clients. Déjà, félicitations pour cette présentation-là qui est tout à ton honneur.
Ouais, c'est flatteur.
C'est flatteur. Et du coup, ma question, c'est en quoi faire preuve de créativité est un atout aujourd'hui en neuromarketing? Est-ce que la créativité aujourd'hui est essentielle comme élément à mettre en place? Le fait d'avoir des solutions un peu imaginatives, un peu qui sortent du lot, qui se distinguent, un peu parfois osées, est-ce que c'est réellement un atout aujourd'hui qu'on doit développer pour être un bon neuromarketeur?
Alors déjà, c'est pas moi qui ai fait cette description. Du coup, je suis content. Je
Tu
savais
l'avais
même pas
déjà
qui
vu
avait
ou
écrit
non?
ça.
Tu l'avais pas vu,
Non, je crois,
d'accord.
moi je vais rarement sur le site du coup, mais c'est cool. Est-ce que c'est utile du coup la créativité? Comment on s'en sert? Moi c'est quelque chose qui me correspond, que j'aime bien mettre en place. Enfin, tu vois, ça doit pas être quelque chose de. C'est pas un processus, tu vois. Quoique, il y a des théories sur la créativité qu'on peut utiliser. Mais non, moi, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Et pour des personnes, justement, tu vois, qui aiment bien être cadrées de ouf, qui sont là pour avoir une étape bien précise, ce qu'on fait maintenant à tel endroit, ça, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc, ouais, le freestyle et les choses comme ça correspond un peu plus à ce que je fais. Il y a des clients avec qui, justement, quand ils sont un peu dans cet esprit-là, ça marche tout de suite et beaucoup mieux du coup, parce qu'on a plein de liberté et on n'est pas obligé de se restreindre à tester une seule chose à la fois. On peut essayer de designer des choses un peu plus cool.
Ça devient comment tout ça, toi? Limite, tu dors, tu as une idée en pleine nuit, tu te réveilles, tu la notes et t'appliques. Ou est-ce que t'as. Comment ça se passe dans ta tête, en fait, précisément par rapport à ça?
Alors, écoute-moi, je sais pas
comment je prends je des choses bizarres.
je sais pas, je m'inspire sûrement beaucoup de. Comment dire? Je sais que moi, j'aime beaucoup les schémas. Tu vois, je sais que dans ma tête, ça fonctionne beaucoup en schéma. Alors, du coup, d'ailleurs, c'est un peu contradictoire, mais du coup, dès que je vois qu'on peut rajouter certaines pièces dans un schéma, eh ben, j'essaye. Alors, c'est pas très précis là ce que je raconte.
Ouais, c'est pas grave, on essaye de visualiser en même temps que toi. Donc, là, je vois un peu un map mind devant moi, tu vois, qui se dessine.
Exactement, ouais. Exactement. C'est comme des map mind. Et puis, on essaie de rajouter des ramifications, on voit ce qui marche ou pas. Et ça, bah, on retrouve tout ce processus dans un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est un schéma, en fait. Et donc, pour optimiser, c'est assez simple quand on sait comment ça marche. Donc, ouais, c'est pas très clair, mais c'est à peu près comment ça se passe.
Tu vois un peu comme des Legos, en fait, devant toi, que tu emboîtes au fur et à mesure, que tu déboîtes, que tu emboîtes.
Ouais, c'est plus comme ça. Beaucoup de schémas, tout en visuel.
Et ces schémas, tu les gardes à l'esprit ou tu les matérialises sur du papier ou sur des logiciels? C'est vraiment tout dans ta tête aujourd'hui?
Les deux, parce que sinon ça fait un sacré fourre-tout dans la tête. Mais non, du coup, moi, j'aime bien le papier stylo, c'est pas mal. Alors, je les regarde pas souvent, mais au moins pour les poser, c'est plutôt cool.
D'accord, super, super. Et est-ce que tu as sinon des stratégies, toi, de ton côté, que tu mets en place? Alors, tu m'as dit que non, il n'y a pas ce genre de processus, mais des moyens un peu justement de créer un cadre qui te permet d'avoir plus d'imagination, d'être plus créatif. Par exemple, un café, je ne sais pas, de la musique particulière, des choses qui te stimulent un peu, qui stimulent un peu ton cerveau et qui t'aident à avoir plus d'imagination, être plus productif par rapport à ça.
La seule chose que je fais dans ce sens-là, c'est que je travaille que quand je suis apte à travailler, c'est-à-dire que je me force jamais. Donc, si un matin j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Mais si un soir je suis inspiré, bah je vais travailler le soir. Donc, dès que ça vient, je travaille et je force jamais les choses, quoi.
Et t'es plus du matin ou plus du soir justement? Est-ce qu'il y a une vérité par rapport à ça aussi?
Plus du soir quand même. Plus du soir. Et le sport aussi, c'est un bon moyen de. Vraiment, à chaque fois quand on bloque sur quelque chose ou qu'on a besoin de trouver des idées, le mieux, c'est de ne pas y penser, je trouve, et aller faire autre chose.
Là, je suis plutôt d'accord avec toi. Déjà, que le fait de respecter son rythme, c'est super important. Alors moi, à l'inverse de toi, je suis du matin.
Toi, tu es du matin?
100%. Le soir, à partir de 19h, tu me demandes un truc, je suis une loque complète, je ne peux rien faire. Par contre, à 5h du matin, j'attaque.
Donc, c'est parfait. Aujourd'hui, tu m'as proposé l'après-midi pour le podcast. C'est parfait que ce soit pas le matin.
Mais c'est nickel pour moi aussi parce que en fait, début d'après-midi, j'ai un peu un petit déclin, on va dire, en termes d'attention. Donc c'est parfait pour moi aussi, toi. Donc c'est nickel. Mais c'est vrai que respecter ce rythme, c'est super important. Pendant des années, je me suis forcé à bosser le soir. À chaque fois le lendemain, je revenais à ce que j'avais fait pour le déconstruire, pour le refaire. Au final, c'était plus une perte de temps qu'autre chose. En plus, j'empiétais sur mon sommeil. Donc j'étais perdant à 100%. Ah ouais, en plus. Donc c'est vrai que respecter son rythme,
c'est important. En plus, c'est ta spécialité en plus de comprendre tout ça.
Être passé par ce problème de sommeil-là m'a permis justement d'améliorer mon sommeil par la suite et mieux comprendre mon rythme aussi.
Ouais.
Donc c'est grâce aux échecs que j'ai connus et au fait que je me sois forcé à aller plus loin que mes limites qu'aujourd'hui, j'ai connaissance de tout ça, tu vois.
Mmh. Bah, du coup, toi aussi, c'est un peu expérimental ce que tu mets en place.
Ouais, complètement. Après, c'est vrai que la notion de rythme, c'est une chose qui a été mise en place, qui a été développée par les scientifiques aussi. Il n'y a pas de preuves réelles, mais tu as les biorhythmes qui existent. Des personnes plus du matin, plus du soir, plus de journée, etc. Et en fonction du rythme auquel tu appartiens, tu es plus productif, par exemple, soit le matin, soit l'après-midi. Tu es plus à même de faire du sport à telle heure, plus à même de te coucher à telle heure, plus à même de manger à telle heure, etc. Après, ça va très loin. Ils mettent même ça à la sauce de la prise de médicaments, etc. Toi. Par exemple, tes médicaments font plus effet sur toi si tu les prends à telle heure selon ton biorhythme. Alors, je suis pas à 100% d'accord avec ça, mais voilà, ils vont très loin dans le délire.
Ok, et du coup, ouais, mais ce qui est intéressant avec ces domaines-là, c'est que souvent, il y a des études qui contredisent d'autres études. Alors, on ne sait plus trop où donner de la tête.
C'est vrai, je suis bien d'accord, d'où l'importance qu'une fois de tester. Très clairement, tu testes, moi, je sais que je suis du matin, du coup, j'ai vraiment basé tout sur le matin. Donc, je me lève à 5-6 heures du matin, tout le monde dort chez moi, donc c'est parfait, je bosse à fond. Après, je sais qu'en fin de matinée, je vais faire du sport. Comme tu dis, le sport, c'est important parce qu'on se coupe à 100%, on pense à autre chose. Et après, je rattaque jusqu'à 18 heures. Et après, je suis cuit.
Après c'est chill.
Après c'est tranquille, c'est voilà, je me laisse aller, je lis des bandes dessinées, etc. pour réellement déconnecter le cerveau à 100%.
Okay.
C'est ça que respecter son rythme aujourd'hui est très important, je pense, et peu de personnes le font. Et le problème, c'est que la société ne permet pas de respecter son rythme.
Toi, effectivement, tu passes à ton
compte. On nous impose.
C'est ça.
Ouais.
Du 8h à 18h, en fait.
Lever tôt le matin.
C'est ça. Lever tôt le matin, du coup, et puis finir à 18h, et puis bosser de 8h à 18h. Alors qu'au final, bosser de 8h à 18h, c'est plus occuper son temps de 8h à 18h. Parce que personne ne bosse de 8h à 18h à 100%.
Je pense que même une personne qui est efficiente juste 4 heures par jour, elle fait beaucoup plus qu'une personne qui fait du 8h à 18h.
Je suis 100% d'accord avec toi, réellement. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, quand on est salarié, il faut savoir adapter son temps de travail à sa capacité de productivité. Faire les tâches, on va dire, un peu inutiles, par exemple, comme gérer ses mails un peu inutiles, encore une fois, comme répondre à des courriers, comme appeler 2-3 clients, par exemple. Quand on n'est pas productif, par contre, bosser sur des dossiers compliqués, sur du montage de formation ou autre, quand là, on est au taquet.
Je suis d'accord avec ça, quand même.
Après, c'est que tu as l'avantage, toi, effectivement, tout comme moi, j'ai l'avantage aujourd'hui de pouvoir choisir le rythme que l'on met dans son travail.
C'est quand même un sacré avantage qu'on a.
À la seule différence, c'est que moi, j'ai un enfant qui a 19 mois et qui, justement, m'impose des fois des rythmes un peu particuliers. Mais ça, c'est autre chose.
Ah, donc c'est pour ça que tu te lèves à 5 heures du matin.
Je me levais à 5 heures avant. Mais lui, il me réveille plus à 4 heures qu'à 5 heures, ce qui est encore différent.
Ah mince. Faut lui faire prendre ton rythme à toi.
C'est ça, exactement. J'essaye. Mais bon, c'est pas le rythme de la maman aussi. Après, tu vois, il faut un peu adapter à tout le monde.
C'est vrai. Il en faut pour tout le monde.
Également, est-ce que tu vois des différences quand tu bosses, toi, par rapport à ton alimentation? C'est une question que je me posais. Parce que je ne sais pas trop comment tu appréhendes la nutrition, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien. Mais est-ce que tu vois des différences, par exemple, quand tu manges un peu un sandwich à l'arrache après un rendez-vous client ou quand tu te fais un repas qui est plus pensé, plus réfléchi et plus posé à table en termes de productivité, d'ingéniosité, de créativité?
Alors, je t'avoue que moi, je pense ma nutrition pas en termes de productivité, parce que moi, je t'avoue, je n'avais jamais fait le rapprochement entre nutrition et productivité. Qu'on peut sûrement faire, mais que moi j'avais jamais pris conscience de ça. Mais je base surtout ma nutrition sur vu que j'aime bien faire du sport, je mange pas en général du matin jusqu'à 15h, et ensuite à 15h je fais mon premier repas pour et ensuite un autre repas le soir.
Tu fais un jeûne intermittent, en fait?
Ouais, en général. D'accord. Je fais comme ça.
Ok, ça te convient bien, du coup tu te sens bien, t'as pas trop faim, ça va?
Ouais, et puis comme je travaille, ça passe vite le temps et j'ai pas forcément envie de manger, quoi.
Ouais, c'est l'avantage. Avec le jeûne intermittent, je commence à m'y mettre aussi de mon côté parce qu'il y a plusieurs effets bénéfiques sur la concentration, notamment. Et au niveau des neurones aussi.
Ouais.
Sans compter au niveau de l'organisme, de l'intestin, etc. C'est assez intéressant, paraît-il. Du coup, j'essaye encore une fois, on est un peu encore dans ce test dont on parle depuis tout à l'heure. C'est plus compliqué pour moi parce que moi, du coup, je mange à 5h du matin avant.
Ouais.
Maintenant, je suis passé à 10h. Donc, je t'avoue que le gap a été compliqué à prendre au départ. Là, ça va, je m'y fais et je vais essayer de pousser jusqu'à midi. Je vais essayer.
Ok. Ça fait des périodes quand même de... Puisque tu dois manger plus tôt du coup le soir.
Je finis entre 7h à 8h maximum, 7-8h. Et du coup, je remange à 10h le matin.
Ok. Ça fait combien de temps ça sans
14h.
Ouais, c'est ça. À partir de 12 ou 14h, c'est bénéfique, il me semble.
Ouais, 12h, c'est bien en termes de repos digestif. 14h, tu as des effets supplémentaires. Et 16h, c'est l'idéal parce que tu actives un peu des mécanismes du corps qui sont encore différents.
C'est ça.
Notamment les cellules macrophages, etc. Après, c'est compliqué à expliquer, mais 16h, ouais, il paraît que c'est le mieux. Après, pas toute l'année non plus, tu vois.
Je me posais une question, d'ailleurs, peut-être à la réponse. Est-ce que si on prend un café sucré le matin, ça coupe le jeûne?
Oui.
Ouais.
Tout apport calorique coupe le jeûne. Et okay. Prendre le café le matin n'est pas la meilleure solution possible aussi. Alors, je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un mécanisme dans le corps humain qui s'appelle le cortisol, qui permet de susciter l'éveil.
Okay.
Tu as 3 phases de production de la journée. Tu as une le matin, une début d'après-midi et une vers 17h. Mm-hmm. Et en fait, quand tu prends un café à ce moment-là, si tu veux, ton niveau d'énergie est déjà au maximum. Donc, c'est comme si tu chargeais un téléphone que tu es déjà à 100%. Ça ne sert à rien.
D'accord.
Il vaut mieux prendre un café sous le coup des 10-11 heures en temps normal. Après, sous le coup des 13 heures, je crois, sous le coup des 17 heures. Là, c'est efficace.
Okay.
Parce que du coup, ton poste de production de cortisol, du coup, tu vas la remonter grâce au café.
D'accord. Ah, c'est intéressant. Bah, tu vois, tout ça, je l'ignorais complètement.
Sinon, oui, effectivement, le sucre coupe le jeûne, ouais. C'est peu, mais ça coupe quand même.
Je ne fais pas un jeûne intermittent, alors, puisque moi, je prends café tous les matins. Café sucré.
Tout dépend le sucre que tu mets dedans. Si tu mets entre un carreau et 18 carreaux, effectivement, il y a aussi un monde.
Non, mais juste sur le papier, un carreau
déjà fait que tu coupes le jeûne, ouais, sur le papier.
Ok.
Faut pas sauter.
Bah ouais, je vais essayer ça. Je vais essayer ça.
Le café, pour l'instant, j'ai mon stand-by, donc... Ça fait 3 mois
que je vais essayer ton conseil. Comme ça, je vais prendre le café plus tard dans la matinée.
Parce que je peux t'envoyer de la documentation par rapport à ça. J'ai fait des schémas, donc je pourrais te les envoyer. Vu que tu aimes bien les graphiques, carrément. Ça tombe plutôt bien. Et je peux t'envoyer ça, comme ça, tu auras un petit visuel pour savoir comprendre le café pour être plus efficace.
Ah bah, je vais tester. Encore
bah, tu me diras par retour sur LinkedIn ou par mail les effets que ça a eu.
Ouais, carrément. Carrément.
Ok, Ethan. Bah, du coup, j'ai un peu balayé les questions que je voulais te poser. Ça a un peu dégressé sur la fin, mais c'était super intéressant, notamment par rapport à la nutrition et par rapport au respect de son rythme biologique. Est-ce que tu as des choses, toi, à ajouter?
Est-ce que j'ai des choses, moi, à ajouter sur...
Soit le neuromarketing, sur les neurosciences, sur la communication ou des astuces personnelles pour mieux travailler.
Une petite astuce personnelle pour mieux travailler. Si, la seule, celle qu'on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment faire travailler quand on sent l'envie, pas se forcer.
Ouais.
Bon, après, évidemment, si on sent l'envie que 30 minutes par jour, c'est bof. mais du coup, ça ramène à la question qu'il faut travailler dans quelque chose qui nous passionne vraiment, sinon... on ne sera jamais vraiment productif et de la meilleure manière. Donc,
de une, on ne le sera pas. Et de deux, effectivement, on ne va pas développer ses réelles compétences. On va développer des compétences pour lesquelles on n'est pas fait. Et du coup, ça demande une énergie considérable de développer des compétences pour lesquelles on n'a pas réellement d'appétence particulière.
Ah, c'est ça. Bon, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté l'école d'ingénieur. Bien que j'étais à la fin, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas. Et là, je m'amuse beaucoup plus.
Et du coup, tu n'as pas l'impression de travailler, je pense.
Non, je ne prends pas ça vraiment comme du... Ah si, il y a certaines tâches quand même qui comptent comme du travail, je t'avoue. Mais la plupart du temps, je ne compte pas ça comme du travail. Non.
Super. Et est-ce que tu as une astuce en neuromarketing ou en marketing psychologique que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent appliquer dès demain, par exemple, pour faire meilleure impression, pour vendre plus facilement, pour mieux communiquer?
Ouais, alors bah du coup ça dépend ce que les personnes vendent et quel est leur moyen de communiquer, puisque c'est quelque chose qui est le plus important.
Imagine un candidat qui va aller vers un recruteur qui veut se vendre lui-même, en fait. Est-ce que là tu as des stratégies par rapport à ça?
Alors là, ouais, j'ai carrément une stratégie. Moi, j'adore passer des quand j'étais avant de passer à l'école, quand je passais les entretiens, c'était le truc où j'étais le plus à l'aise. Et donc mon seul conseil, c'est il faut surprendre la personne en face de vous. Et pour se dégager toute la concurrence, c'est pas se placer comme une personne qui est là pour demander un poste ou pour demander une école, mais surtout essayer d'apprendre des choses à la personne qui est en face de soi. À partir du moment où on l'emmène sur des sujets qu'elle-même elle connaît pas, et ben on élimine toute la concurrence et puis c'est plus agréable même pour la personne qui fait passer l'interview ou l'entretien. On l'amène sur des sujets qui nous passionnent à nous et elle va être intéressée et puis c'est comme ça qu'on surprend. Et puis qu'on intéresse.
Alors, je te rejoins à 100%. Une technique que j'aime bien donner également aux personnes, moi, c'est de permettre au recruteur de nous projeter dans le poste. Tout simplement, à la fin de l'entretien, on envoie au recruteur un plan d'action qu'on souhaite mettre en place une fois le poste, on va dire, décroché. Comme ça, la personne nous projette réellement dans le poste. Voilà, comme ça, si moi, demain, je prends le poste, je ferai ça, ça, ça et ça avec tel outil et tel moyen. Et voilà, tel résultat, là où je vais arriver en tout cas.
Et ça, personne ne le fait. C'est super intéressant.
Et si en plus on peut le coupler avec ton idée d'apporter des choses nouvelles, c'est encore mieux du coup.
Mais même carrément parler d'autres choses que du sujet principal. Si on demande un poste, je ne sais pas moi, d'ingénieur, bah, si on se met à parler psychologie avec la personne en face, là on va se dire, ok, il est comme tous les autres, il sait faire de l'ingénierie, il sait faire des maths, il sait faire de l'informatique, mais en plus il a ça. Donc vraiment partir sur des sujets autres que le sujet principal, c'est intéressant.
Montrer ta différence par rapport aux autres, du coup, ouais.
Ouais.
Super intéressant. Bah, merci pour ce dernier petit conseil, Ethan.
Bah,
tout est bon pour moi. Je pense que pour toi aussi. Si les personnes veulent un peu soit faire appel à toi, soit suivre ton travail potentiellement, on peut les orienter où? Sur LinkedIn principalement? Ou est-ce que tu as d'autres plateformes?
Alors, pour travailler avec nous, il y a le site de la WM Agency, donc Marketing Mentalist, ou bien même le site de Marketing Mentalist. On a aussi une école, une académie en ligne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est en train de lancer un projet. Ouais, une chaîne YouTube.
Une radio.
Puis on lance une... Ouais, c'est vrai aussi. On a une émission tous les deux mardis, dont une ce soir. Bah, je ne sais pas quand elle sera diffusée le podcast, du coup, on ne peut pas dire ça.
Ça sera un lundi. Mais...
Et bah, alors, peut-être le jour suivant. Mais peut-être. Sinon, ouais, sur LinkedIn, on peut me contacter facilement.
Ok, ça marche. Bah, merci pour tout. Et puis, à très vite. Et puis, donne-nous des nouvelles par rapport au café.
Ouais, je te ferai des retours alors, super.
Avec grand plaisir. Merci encore Ethan, à très vite.
Merci beaucoup à toi.
Salut.
Voilà, Nous arrivons maintenant au terme de cet échange. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris de plaisir, moi, à l'enregistrer. Encore une fois, vous pouvez retrouver tout le travail d'Ethan et de Bertrand Millet sur la chaîne YouTube Marketing Mentalist. De mon côté, je vous souhaite maintenant une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Tout dépend l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nouvel épisode qui portera certainement sur la nutrition. À très vite.